cet exposé doit commencer par une série de d'avertissements ou en forme d'excuses. J'en égrènerai certaines au fur et à mesure. La première chose, c'est que je suis ici le représentant d'une hydre à deux têtes, puisque le travail que je vais vous présenter est un travail, c'est un projet de recherche que nous menons conjointement avec Hélène Buisson-Fenet, qui est sociologue de l'éducation, CNRS, et qui fait partie comme moi de l'équipe Triangle, qui hante ces lieux et l'autre côté du jardin. Donc, elle en sociologie et moi plutôt du côté de la philosophie. Nous avons tenté, j'expliquerai pourquoi dans un instant, de fabriquer une sorte de montage entre nos références respectives pour penser, pour essayer de décrire, ce que je vais vous proposer sera d'abord de l'ordre de la description, une situation singulière sur le fond de laquelle peut-être on a quelque chance de réfléchir sur ce que pourraient être les pratiques, mais peut-être que pour réfléchir sur ce que pourraient être les pratiques, il faut déjà comprendre ce qu'elles sont déjà et le contexte dans lequel ces pratiques se déploient. Pour situer peut-être, Luc parlait d'actualité il y a un instant, l'objet ou peut-être l'enjeu de ce que je vais vous présenter, on peut revenir à un article du journal Le Monde au tout début du mois de septembre, qui présentait la rentrée sous contrainte de Vincent Peillon, c'était le titre, et à l'intérieur des annonces qui étaient faites dans cet article, on avait celle-ci, hein, que j'ai affichée, je cite, « La rue de Grenelle a porté ses efforts sur l'accueil des élèves en situation de handicap, ils seront 210 395 en 2011-2012, soit 35 700 de plus qu'en 2008, et 1500 auxiliaires de vie scolaire individuels, AVSI, supplémentaires ont été recrutés, 4000 emplois uniques d'insertion transformés en 2300 emplois d'auxiliaires de vie scolaire mutualisés. On a progressé sur le plan quantitatif, a commenté sans excès d'optimisme Georges-Paul Langevin, la ministre déléguée à la réussite éducative, mais pour progresser sur le plan qualitatif, il faut une vraie réflexion sur la formation des personnels, il faut un référentiel métier, une revendication ancienne des familles concernées. Je voudrais retenir de ce passage trois choses. D'abord, l'ampleur des transformations survenues et en train de survenir dans le système éducatif, ampleur, augmentation considérable du nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés, augmentation aussi, pour des raisons qui sont diverses, et j'y reviendrai, d'auxiliaires de vie scolaire, et face à ces mutations récentes, quelque chose comme un problème ancien, dont en tout cas les familles ont porté depuis longtemps la nécessité de le poser, qui est au fond la revendication de formation, la revendication de définition de ce que peut être ce métier-là, qu'est-ce que ça peut être que un ou une, et plutôt une, auxiliaire de vie scolaire individuelle, question à laquelle la ministre répond assez immédiatement par l'invocation d'un référentiel métier. Référentiel métier, et la question que nous voudrions poser, Hélène et moi, est celle-ci. Est-ce déjà temps, est-il déjà temps de définir quelque chose comme un référentiel métier? Dans quelle mesure est-il possible de répondre à cette commande qui est une commande technique, qui est une commande de technique? Et est-ce qu'on peut vraiment travailler sur un tel référentiel avant d'avoir vraiment compris ce qui était en train de se passer? Ce qui est en train de se passer dans le système éducatif, ce qui est en train de se passer au travers de l'intégration de ces élèves handicapés et de la mise en place de ces médiations particulières que sont les auxiliaires de vie scolaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer et aussi à quelle échelle faudrait-il se situer pour bien le décrire et pour bien le comprendre? Et nous sommes dit finalement que pour comprendre ce qui était en train de se jouer, il fallait sans doute se situer à la fois sur plusieurs échelles, de la plus large, ce qu'on pourrait appeler les transformations générales de l'état de droit, jusqu'à la plus étroite, ce que font effectivement ces personnels, ce que font ces jeunes femmes ou ces femmes plus âgées dans le quotidien des classes, dans une forme d'effet d'emboîtement, l'emboîtement de différents niveaux de description. Ce sera ma deuxième excuse. Je vais vous infliger quelque chose comme un exposé balzacien, hein, quelque chose où on décrit, hein, depuis très loin jusqu'au plus proche, avant même de se demander ce qu'il est possible de faire. Je voudrais vous proposer un exposé en trois temps, avec trois échelles et au fond trois corpus de référence. Premier temps, première hypothèse, ce qui se passe aujourd'hui a partie liée avec une mutation d'ensemble des principes qui règlent l'action publique dans nos États. Je veux dire que le handicap, que l'intégration des élèves handicapés est un cas paradigmatique de ce qu'on pourrait appeler la mutation de l'état des droits. Le passage d'un système de l'état de droit à un système de l'état des droits, c'est-à-dire d'un État qui va agir parce qu'il a en face de lui, parce qu'il se doit de reconnaître, des droits spécifiques, non pas simplement poser l'universalité du droit, la République, non pas simplement se soumettre à des lois individuelles, à des droits individuels, vous savez comment le débat sur la pédagogie s'est beaucoup organisé autour de cette grande tension entre le droit et les droits, mais plutôt quelque chose comme un impératif de droit au droit, c'est-à-dire le droit aux conditions permettant effectivement de se reconnaître dans la règle commune, permettant effectivement d'aller jusqu'à l'intégration dans les classes, ce qu'on pourrait appeler une exigence multiforme dans notre société, mais particulièrement tendue dans le contexte éducatif, qui est une exigence d'accès et de conditions d'accès. De ce point de vue-là, sans vouloir faire à mon tour des transitions trop tirées par les cheveux, je dirais qu'on n'est pas si loin de ce dont il était question ce matin. Je pense que, comme dirait Jeremy Rifkin, nous sommes à un âge de l'accès. Alors, on a l'accès très large aux connaissances et aux enseignements par le biais d'Internet. On a aussi une revendication des personnes, des familles, qui est une revendication d'accès. Non pas seulement nous avons des droits, mais nous voulons que les moyens soient mis en place pour que nous puissions effectivement les exercer. L'état des droits, ce serait donc ceci, mais c'est aussi, du point de vue, disons, normatif, du point de vue des grandes exigences auxquelles l'action de l'État doit se plier, mais l'état des droits, c'est aussi un État qui doit inventer, qui doit produire des modalités précises pour cet accès, des instruments qui ne sont pas du tout décrits, contenus ou déductibles de cette grande exigence générale, des instruments dont la fabrication dépend aussi de tout un contexte institutionnel, je vais y revenir dans un instant, de tout un montage, de tout un bricolage, de toute une instrumentation de l'action publique qu'il convient de comprendre. À première échelle, qu'est-ce que ça veut dire que l'école pour tous ? Qu'est-ce que ça veut dire que l'école pour tous ? C'est-à-dire, à quel type d'exigence avons-nous à faire avec ce pour tous ? J'essaierai de la décrire dans un instant, elle est complexe. Et puis, comment l'État peut-il prendre en charge une telle exigence ? Du point de vue du corpus de référence, là, pour essayer d'éclairer ça, on est du coup un peu obligé de faire le grand écart, d'aller chercher du côté de philosophes qui réfléchissent sur les grandes transformations normatives de notre modèle de droit, et on ira chercher du côté de quelqu'un comme Axel Honneth, et puis du côté de philosophes qui posent plutôt la petite question toute plate et empirique, comment est-ce que ça se passe ? Et là, on irait plutôt chercher du côté de Michel Foucault. Michel Foucault, pas Jean-Pierre Foucault, donc celui des deux qui n'a pas de moumoute. Voilà, c'est un montage évidemment un peu scabreux du point de vue théorique, je pense. Nous pensons qu'il est relativement éclairant. Bon. Première affaire. Deuxième affaire, et si on descend un peu, si on descend dans le vif ou dans l'opaque du fonctionnement des institutions, on s'aperçoit que pour comprendre la mise en place, mais aussi toutes les contraintes qui président à une fonction de médiation, comme celle des auxiliaires de vie scolaire, eh bien, on est obligé de rentrer dans une histoire et dans une sociologie des institutions scolaires, dans une histoire et dans une sociologie des professions, des professionnalités qui tournent autour de l'école. Je veux dire par là que avant de penser un référentiel métier, il faut sans doute comprendre comment l'émergence d'une telle fonction, très nouvelle en un sens, ne s'explique pas simplement par le souci généreux de donner à tous accès à l'école, mais l'exigence d'une telle fonction a aussi à voir avec des concurrences institutionnelles, à l'intérieur de l'univers de l'éducation, dans la longue durée, hein, comment a-t-on pris en charge les enfants handicapés depuis le début du XXe siècle ? Il faut aussi comprendre comment des politiques d'emploi ont modelé ce rôle, et continuent de le faire d'ailleurs, combien l'objectif de réduction du chômage a pesé sur la définition de ce type de rôle, et puis comprendre encore comment, à l'intérieur même de l'institution scolaire, la division du travail éducatif fabrique ou ne fabrique pas, laisse possible ou ne laisse pas possible ces interstices à l'intérieur desquels ces acteurs nouveaux de l'univers de l'éducation vont trouver, malcommodément, je ne sais pas si cet adverbe existe, enfin en tout cas avec plus ou moins de facilité, vont trouver à se placer. Ce serait la deuxième échelle. Puis enfin, si on veut terminer de décrire, ben il faut aller voir la façon dont les personnes, les acteurs, vont réfléchir et jouer dans l'exercice effectif de leur travail, dans la constitution de leur identité professionnelle, parvenir à réfléchir l'ensemble de ces contraintes pour sculpter, pour dessiner quelque chose comme leur rôle, comme leur place, comme leur relation avec les autres acteurs du cadre scolaire. Avec cette question lourde, qu'en est-il de l'incursion, ou de l'incursion très discrète, parce que les acteurs se font petite souris, on y reviendra, l'invisibilité est la règle, comment se fait l'incursion de personnels dans l'éducation qui ne sont pas des personnels d'éducation, qui ne sont pas des enseignants. Là, on aurait affaire à... Enfin, tout à l'heure, là, on était du côté des grands philosophes du droit. Ensuite, il faudrait, et je le ferai, aller chercher du côté de la sociologie du travail et de la sociologie de l'action publique. Là, on est davantage, évidemment, dans une ethnographie. Alors, cette ethnographie, nous avons commencé à la constituer. On a commencé à constituer, c'est un travail en cours, un certain nombre d'entretiens individuels. L'enjeu de ces entretiens étant de parvenir... c'est un terme que j'aime bien, à comprendre comment les auxiliaires de vie scolaire font usage de la place qui est la leur, c'est-à-dire à la fois parviennent à se l'approprier et parviennent, plus ou moins facilement, à construire des manières de faire, des usages, comme on dit, des routines dont, j'y reviendrai en terminant, la notion d'invisibilité nous semble décrire un certain nombre de traits. En bref, l'école pour tous, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle médiation, c'est-à-dire aussi comment ces médiations se feraient un chemin dans le contexte institutionnel et social autour de l'éducation ? Et puis quels usages de la part de celles et ceux qui inventent, comme dirait Michel de Certeau, mille manières de braconner ? Alors, premier point, prenons les choses très largement. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, côté de l'intégration des élèves en situation de handicap, il faut revenir à la loi du 11 février 2005, loi relative, je vais changer de diapo, c'était la troisième excuse que je voulais faire après l'exposé magnifique de ce matin, on passe du MOOC au MOSH, il y a sans doute une thèse à écrire sur l'inaptitude des philosophes au PowerPoint, je passe. Il faut revenir donc à la loi du 11 février 2005, qui instaure un droit à compensation des personnes en situation de handicap. Ça n'est pas la seule. Toute une série de lois, à partir des années 90, introduisent ce type de droit. Qu'est-ce que c'est que ce genre de droit ? C'est en fait un droit réglé par un double souci. D'une part, le souci de remédier à des discriminations qui peuvent s'exercer dans l'ordinaire des relations sociales en affirmant très fortement un égal accès des personnes, des citoyens, au service public qui structure ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté ordinaire. En même temps, ce droit à compensation insiste sur le fait que, pour assurer cette égalité, il faut prêter attention aux situations particulières dans lesquelles les citoyens peuvent se trouver plongés. Situations qui peuvent entraver l'exercice effectif de leurs droits, qu'il faut rectifier, qu'il faut aménager. Pour ce qui nous intéresse, ce motif de l'égalité d'accès, vous voyez qu'il a deux sens, et il va du coup trouver deux formules. C'est à la fois la récusation d'un stigmate, tout le monde est égal, et c'est en même temps la compensation d'une vulnérabilité. Le handicap est à la fois la réalité malgré laquelle le droit commun doit s'appliquer et en même temps la réalité en fonction de laquelle les parcours doivent être adaptés. Ça se traduit de deux manières, par deux exigences. D'une part, le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire, au plus près de son domicile, et en même temps, le droit dans ce cadre-là à un parcours scolaire continu, je cite, continu et adapté. Deux exigences. D'une part, accueillir ensemble les enfants dans un cadre scolaire unique. D'autre part, ajuster, aménager ce cadre pour rendre concrètement possible à tous cette fréquentation commune de l'école et je dirais presque cette fréquentation des uns et des autres à l'école. Il y a là une tension. Il y a là une tension entre, disons, le commun de la règle et la diversité des situations. Cette tension, elle, je crois qu'on peut la voir, si on la regarde avec des lunettes philosophiques, on s'aperçoit que ça n'en est qu'une qu'en apparence. Pour bien comprendre ce qui se joue là, je pense qu'il faut revenir à la manière dont Axel Honneth, philosophe Axel Honneth, décrit l'exigence générale de reconnaissance, telle qu'elle structure nos intuitions normatives dans la société qui est la nôtre. Il y a dans la société qui est la nôtre non seulement une exigence de justice, mais une exigence de reconnaissance. Et, dit Honneth, cette exigence de reconnaissance, elle a différents aspects. C'est d'une part une exigence de respect de soi, dit-il, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir se reconnaître et se voir reconnu comme l'égal de tous. Et puis, dit-il encore, c'est une exigence d'estime de soi, c'est-à-dire que le sujet doit pouvoir être capable de prendre part à des activités collectives où ses capacités ou ses qualités sont jugées aptes, intersubjectivement, à contribuer à la réalisation de fins communes. Je veux être reconnu, ça veut dire je veux être respecté, comme tous, mais ça veut dire aussi je veux pouvoir participer avec les autres. De ce point de vue-là, il n'y a du coup pas d'antinomie, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas à rejouer encore une fois la grande opposition de la règle et des situations. Il y a une complémentarité profonde. D'un côté, les personnes exigent une indifférenciation, dont la reconnaissance juridique est la traduction. De l'autre côté, elles exigent une participation, et cette participation, il faut un aménagement. Vous allez dire, c'est évident, oui, mais ça a une conséquence assez considérable, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, pour les professionnels chargés d'assister ces élèves dans leur parcours scolaire. Les médiateurs, les médiatrices que sont les auxiliaires de vie scolaire, elles ont un double rôle. D'une part, permettre aux élèves handicapés d'accéder effectivement à l'apprentissage, donc agir, mais faire en sorte que les élèves soient reconnus à l'égal des autres élèves dans le fonctionnement de la classe. Ce qui veut dire agir sans que leur action apparaisse comme stigmatisante ou comme par trop visible, ce qui isolerait l'élève dans la classe. Structurellement, et je veux dire en remontant même jusqu'au fond de la règle de droit qui institue toute l'affaire, on s'aperçoit que les auxiliaires de vie scolaire se voient commis à une forme d'invisibilité. Je reviendrai tout à l'heure sur ce motif de l'invisibilité qui a à voir évidemment avec une certaine résistance de l'ordre pédagogique à être bouleversé, ne pas faire trop de bruit, mais cette exigence d'invisibilité, elle est tout autant inscrite entre les deux faces de l'exigence de reconnaissance qui fait le fond de cette règle de droit. Voici pour les principes. L'école pour tous, c'est donc forcément à la fois une école pour tous et une école pour les uns et les autres, avec la tension qui peut exister entre les deux faces de cette idée. Reste que la question « comment ?» n'est nullement réglée par l'affirmation de cette exigence générale. Comme le dit d'ailleurs très bien Axel Honneth, la reconnaissance, ce n'est pas un droit, la reconnaissance, c'est une relation. La reconnaissance ne se règle pas par une réflexion simplement juridique, la reconnaissance suppose la mise en place, dit-il, de relations d'un certain type. Du point de vue d'une réflexion sur l'action publique, Ça veut dire que, sous la règle de droit, il faut que quelque chose se passe. Ça veut dire, comme le dirait cette fois plutôt quelqu'un comme Michel Foucault, que les instruments de l'action publique sont sous-définis ou sous-déterminés par les dispositions juridiques qui l'encadrent. Je veux dire par là que le droit ne dit pas le tout de la manière dont il va être mis en œuvre, et que ces instruments de l'action publique, comme l'ont bien montré les sociologues comme Pierre Lascoum, qui ont transposé cette idée dans le champ de la sociologie, sont porteurs, ces instruments, d'effets spécifiques, d'effets originaux, solidaires d'une histoire propre. Pour le dire autrement, l'aménagement de l'accès à l'école que la loi instaure, cet aménagement, il est pris dans l'épaisseur d'agencement institutionnel qu'on ne peut pas comprendre si on ne passe pas d'une réflexion abstraite sur le droit à une réflexion effective sur l'histoire et la sociologie des institutions. On en vient du coup à notre deuxième affaire, qui serait plutôt cette fois-ci une question d'histoire, une question institutionnelle. Là encore, si on remonte, sinon à l'origine, du moins si on prend un petit peu de champ, on s'aperçoit qu'on ne peut pas comprendre ce qu'a été en France la prise en charge, et ce que devient en France la prise en charge des élèves en situation de handicap du point de vue éducatif. On ne peut pas la comprendre si on ne remonte pas d'abord aux concurrences entre institutions et entre agencements professionnels qui ont sculpté l'action publique dans ce domaine-là. Il faut remonter, par exemple, à la loi du 15 avril 1909 qui crée un enseignement spécialisé professionnel pour les enfants dits arriérés, qui institue un certificat d'aptitude destiné aux maîtres expérimentés, qui ouvre des classes et des écoles de perfectionnement, et qui ouvre une histoire très compliquée qui va courir tout au long du XXe siècle, qui est l'histoire du métier d'instituteur spécialisé. Sous le régime de Vichy, tout un secteur d'action sociale clairement centré sur l'enfance et l'adolescence difficile se structure, mais se structure à l'extérieur de l'école, avec des modalités qui sont plutôt des modalités cliniques et des modalités psychopédagogiques. Et se fabrique là, à cet endroit-là, une identité institutionnelle qui, au long de son histoire, c'était montré par plusieurs chercheurs, va être à la fois dans un contentieux compliqué et jamais formellement réglé avec l'éducation nationale, se structure un secteur extrêmement attractif, le métier d'éducateur spécialisé sous tutelle du ministère de la Santé va être extrêmement attractif, et se structure un secteur qui peine, et peut-être à proportion de son ampleur, à se définir comme, du point de vue des contenus, et des compétences, des contenus, de la qualification du métier. Pour mémoire, si on reprend les statistiques du ministère du Travail et des Affaires Sociales, on compte aujourd'hui 300 000 emplois dans la catégorie des professions d'action sociale et d'orientation, dont 208 000 éducateurs spécialisés. Quand même un chiffre extrêmement important. Très grande ampleur démographique, mais qui va s'accompagner, comme l'a montré Villebrot, de ce que Villebrot appelle une impossible technicité. Je cite, « C'est une culture morale qui apparaît être le ciment tant des modalités de sélection, des ressorts de la formation, que des formes d'échange et de travail au sein des institutions. » Villebrot conclut, « L'ineffable demeure. » De ce point de vue-là, il faut bien comprendre qu'en France, on a structuré une grande division entre deux publics éducatifs distincts, et c'est de cela que nous sommes en train de sortir, et qu'il est très compliqué de sortir, entre deux publics éducatifs distincts, division qui peine à se traduire dans la construction de professions dont la consistance en termes de compétences, en termes de techniques, pourrait asseoir, pourrait conforter cette grande division juridique. Pour remédier à cela, les lois ne suffisent pas. Les textes ne suffisent pas. On va avoir, à partir de 1975, une série de textes, loi 1975 en faveur des handicapés, circulaires d'intégration en 1982 et 1983, qui conduisent à la mise en place des CLIS, classes d'intégration scolaire en 91, et des UPI, unités pédagogiques intégrées. Mais sitôt qu'on regarde la manière dont les choses se passent concrètement, on s'aperçoit que pour que ces droits soient opérationnalisés, eh bien, ça va passer par où ? Ça va passer par des dispositifs hybrides, bricolés, et je dirais presque clandestinement bricolés. C'est-à-dire que pour que ce qui se passe aujourd'hui advienne, il a fallu que des expérimentations locales, c'est intéressant de voir comment le local peut ou ne peut pas fonctionner dans un certain contexte, il a fallu que des expérimentations locales se mettent en quelque sorte à l'abri de la grande division qui structurait jusqu'alors le champ pédagogique. Alors l'exemple classique, c'est plus qu'un exemple classique, c'est vraiment une matrice, c'est la mise en place des auxiliaires d'intégration scolaire dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, alors la thèse de Châtelain-Dumel sur cette affaire-là montre quoi ? Elle montre d'abord que la mise en place des circulaires, elle est entravée par un conflit d'intérêts entre la direction départementale de l'action sanitaire et sociale d'une part et l'inspection académique d'autre part. On a là deux séries d'acteurs dont la division, c'est pas la guerre des polices, hein, mais enfin bon, retarde l'application des circulaires. Mais assez rapidement, la recherche de main-d'œuvre pour concrétiser l'intégration, hein, dans un contexte compliqué parce que on dispose pas d'autonomie gestionnaire, il faut éviter des embauches trop coûteuses, etc. Tout cela va amener à bricoler une mission d'intégration scolaire qui permette de se mettre à l'abri des asymétries hiérarchiques entre les deux secteurs, entre l'action sociale et l'éducation scolaire, tout en s'inscrivant suffisamment dans les organigrammes ordinaires pour bénéficier des moyens de fonctionner. Et comment c'est possible ? Parce qu'on a, à ce moment-là, une imbrication assez forte entre les sphères militantes et institutionnelles. D'un côté, les services des collectivités locales partenaires trouvent le moyen de développer quelque chose comme une vitrine sociale du handicap. De l'autre, les individus qui sont porteurs de ce dossier, à travers la mission, gagnent quelque chose comme une reconnaissance de leur combat. On voit bien là, c'est, je trouve intéressant quand on réfléchit à l'expérimentation en milieu scolaire, ce qu'il faut pour qu'une expérimentation prenne, au moins, le contexte est à la fois celui d'une rivalité politique entre les collectivités locales qui sont employeurs, il faut que des acteurs aient plusieurs casquettes en même temps, soient multipositionnels, comme disent les sociologues, qui partent un langage que je n'entends pas tout à fait, et puis, tout un entrelacte d'arrangements qui mobilise des ressources d'origine diverses pour mettre en place un service public et collectif. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette affaire-là prend. En 95-96, l'expérience marseillaise va être relayée de multiples fois par les médias, va inciter les associations porteuses d'un projet d'aide à contacter la mission d'insertion des Bouches-du-Rhône, jusqu'à ce que la Fédération nationale pour l'accompagnement scolaire des élèves présentant un handicap signe finalement une convention avec l'éducation nationale pour développer des services d'auxiliaires d'intégration scolaire. Avec à quoi est-ce qu'on a affaire là ? On a affaire à un personnel contractuel qui rassemble sous un titre commun des aides éducateurs, des emplois jeunes gérés par les associations, des emplois de solidarité, etc. On a affaire à une multitude, l'inclusion du handicap, elle se fait historiquement à travers une multiplication de statuts d'intervention, statuts d'intervention qui n'ont chacun qu'une maigre autonomie et qu'une maigre latitude. La fédération qui promeut cette innovation avance pendant des journées nationales en 2001 que les auxiliaires soient nommés auxiliaires de vie scolaire, affirme que, je cite, « ils font partie des aides humaines parfois nécessaires à la réalisation du projet de vie des personnes en situation de handicap en vertu du droit à compensation ». Et les ministres Jack Lang et Ségolène Royal annoncent le mois suivant la création de 1000 postes, dits AVS, etc. Bon. Vous voyez donc que, si on veut comprendre ce qui nous a intéressé du point de vue presque je sais pas, descriptif, c'est la façon dont, si on veut comprendre la mise en place de cette activité de facilitation, eh bien, on ne peut pas s'en tenir simplement au constat que le politique a assigné des objectifs, reconnu des exigences légitimes. On ne peut pas s'en tenir à la simple application technique de textes juridiques qui, de fait, existaient depuis relativement longtemps. Il faut comprendre comment un dispositif émerge dans l'éducation nationale, mais un dispositif qui canalise des emplois sans cadrer la fonction. L'activité de facilitation se développe sans qu'on s'accorde encore du tout sur la définition de son contenu. Et on va voir que cette définition de contenu va poser un certain nombre de problèmes. J'y reviens dans un instant. Pourquoi c'est important ? Alors, est-ce qu'on peut passer directement de là au simple constat que il est temps de définir le contenu de ces professions ? Pas tout à fait, parce qu'il faut introduire encore un niveau intermédiaire. Il faut en venir à considérer le statut institutionnel qui va être fait à ces professions-là. C'est-à-dire qu'il faut raisonner profession, il faut raisonner travail. Ça définirait... J'ai encore oublié de changer de diapo. On en est au point 3 de celle-ci, à peu près. De ce point de vue-là, si on prend les choses un peu matériellement, du point de vue des modalités d'accès au marché du travail, d'accès aux conditions d'emploi, on s'aperçoit que l'auxiliariat de vie scolaire occupe ou dessine une sorte d'interstice de la division du travail dans l'institution scolaire. Et au fond, se fabrique à l'intersection entre une politique publique, mais qui a peut-être d'autres objectifs, et des propriétés sociales de la main-d'œuvre considérée. Qui sont les AVS ? Quel est leur profil ? Eh bien, on s'aperçoit que ce sont d'abord des assistants d'éducation qui voient leur feuille de route progressivement élargie. À partir de 2005, à partir du plan Borloo, les contrats d'avenir qui sont destinés à faciliter l'insertion sociale des personnes qui reçoivent des minima sociaux, les contrats d'accompagnement dans l'emploi qui s'adressent à des personnes qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi, eh bien, les AVS vont faire partie de la panoplie des politiques d'emploi. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que si aujourd'hui cette fonction d'auxiliaire de vie scolaire existe, c'est sans doute parce que le principe d'accompagnement dans les milieux scolaires va croiser une stratégie de réduction du chômage. Une stratégie de réduction du chômage, ce qui veut dire que, non pas du tout qu'on se fiche les AVS fassent cela plutôt qu'autre chose, mais qu'on reconnaît de manière assez générale l'utilité d'une médiation à cet endroit-là, sans en réglementer véritablement l'exercice, et d'ailleurs sans du tout contrôler l'hétérogénéité de ceux qui vont exercer cette fonction-là. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que ces AVS, qui sont-ils ou qui sont-elles ? C'est une main-d'œuvre essentiellement féminine, à la recherche de bénéfices du temps partiel, d'insertion, du retour à l'emploi. On a 91% de femmes dans ce corps. Et puis, des personnels qui vont avoir, en guise de profil de poste, une polyvalence des tâches extrêmement grande, à condition, j'y reviendrai, de ne pas empiéter sur le rôle pédagogique des enseignants. Les AVSI, pour décrire un petit peu précisément leurs fonctions, peuvent être amenés à effectuer différents types d'activités et contribuent, je cite, à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d'un élève en école, collège ou lycée. Elles peuvent être sollicitées pour exercer dans plusieurs établissements scolaires, pour s'occuper de 2 à 3 enfants, renvoyant à des volumes horaires assez disparates. Il est également possible que ces assistants d'éducation soient, je cite encore, mis à disposition des collectivités territoriales pour des activités complémentaires ou organisées hors temps scolaire dans les établissements scolaires. La définition précise des tâches, elle se fabrique donc sous l'effet conjoint des besoins de l'administration et des conceptions des acteurs locaux. Elle se taille, elle se retaille à la mesure de la circonstance. On a affaire à un personnel multifonction sans diplôme spécifique requis, avec une formation de faible durée, 60 heures, et ces heures-là interviennent relativement tard, car elles ne sont pas préalables à l'exercice lui-même. Qui vont éventuellement obtenir une attestation de compétences et une possible validation par l'expérience. on a affaire à un interstice. Et un interstice avec un statut juridique secondaire. C'est très frappant de remarquer que ce qui va définir cette fonction, ce sont des arrêtés, ce sont des circulaires non publiés au bulletin officiel. On voit bien là comment la hiérarchie des normes reflète assez strictement celle des catégories de personnel. Pour synthétiser ce point, et pour en venir enfin à ce que font dans cet étrange espace les auxiliaires de vie scolaire, qu'est-ce qu'on a ? On a une intersection entre une évolution juridique qui pose un droit inconditionnel à la scolarisation en milieu ordinaire. L'histoire d'un système scolaire où l'enseignement spécialisé est resté un segment à la marge de l'institution. Et puis, on en arrive à avoir une forme de travail social qui, désormais, s'emboîte dans le pédagogique, mais dont l'invention et le bricolage font fonction de comblement éducatif. Et c'est ainsi que l'institution va se donner les moyens, ou essayer de se donner les moyens, d'endurer l'épreuve de l'altérité. J'avoue que le foucaldien que je suis est toujours assez charmé lorsqu'il constate que la grande question philosophique de l'autre, avec un A majuscule, de l'accueil de l'autre, du respect de l'autre, etc., cette question-là se faufile à travers des arrangements et au travers de marges, en empruntant parfois des chemins extrêmement inattendus. On a affaire, pour le dire autrement, pour employer une catégorie de ce que les emprunté aux sociologues américains, on a affaire à quelque chose comme un dirty work, comme de même que les aides-soignantes, de même que les laborantins, on a affaire à cette population-là qui remplit un interstice absolument indispensable à un certain moment au fonctionnement d'institution, sans pour autant que cet interstice ne soit ni reconnu, ni précisément défini. Or, et c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant, ce dirty work est aussi, jusqu'ici, et en quelque sorte structurellement, et il n'est pas sûr qu'un référentiel métier suffise à régler le problème, ce dirty work est aussi un invisible work, quelque chose comme un travail invisible. Venons-en de cette définition abstraite, sociologique, institutionnelle de l'activité, à l'examen du rôle précis, de cette facilitation de l'usage que les auxiliaires de vie scolaire mettent en place. Qu'est-ce qui se passe ? Comment se définit, et là je vais emprunter essentiellement aux entretiens individuels que nous avons commencé à constituer, comment se définit ce métier de facilitation du droit des enfants handicapés à l'école ordinaire ? Première remarque, il se définit vis-à-vis du travail du professeur. Il se définit du travail du professeur, vis-à-vis du travail du professeur, pas du tout parce que les enseignants seraient en mesure d'indiquer précisément aux AVS quelle collaboration est attendue de leur part. Dans les entretiens que nous avons réalisés, ça n'est jamais le cas. Mais parce que les difficultés auxquelles cette présence est invitée à remédier, les difficultés, c'est d'abord et avant tout les difficultés de la gestion, ou en tout cas tout autant, les difficultés de la gestion du groupe classe. À partir du moment où la gestion du groupe classe est compliquée par les besoins spécifiques, parfois par le comportement de l'élève handicapé. Précisons. Il y a évidemment, dans le contenu d'activité de nos auxiliaires, quelque chose de ce que les Américains appellent le « dirty work », au sens où il va s'agir de prendre en charge un ensemble de tâches qui sont en bas de la hiérarchie de prestige. Les gestes en particulier ayant trait à la gestion du corps. C'est revenu fondamentalement dans les entretiens, c'est le corps, je veux dire le change des élèves incontinents, par exemple, ou le repérage des comportements qui préludent à une crise d'angoisse ou de colère, ou le contact physique qui va éviter la fugue, attraper, mais attraper doucement, câliner, balancer, des choses comme ça. Ce qui correspond, dans les métiers médicaux, par exemple, à un aspect dévalorisé. Ce qui est ici un petit peu plus compliqué, parce que ces activités peu nobles sont relevées par une référence permanente à la dignité d'autrui. Je cite un entretien, « Cet enfant n'était pas propre et il n'y avait rien de prévu pour le change à l'école. Ça n'était vraiment pas agréable, je faisais ça le plus discrètement possible dans le local des cantinières. Au bout d'un mois, j'ai failli jeter l'éponge. Et puis, il fallait bien que quelqu'un le fasse. C'était tout de même un être humain, cet enfant, rire gêné. Et aussi, pour qu'il puisse revenir dans la classe, se remettre plus confortablement dans une posture d'apprentissage. On voit comment la prise en charge de cet aspect-là du travail est redoublée, doublée par une valorisation de l'activité de mise en condition des apprentissages, qui va faire passer l'enfant à un statut d'apprenant potentiel. Autre entretien d'une de nos interlocutrices qui témoignait de la différence entre deux élèves dont elle s'occupait en même temps. Je cite, « Entre les deux, c'était un peu la même chose, sauf que la maîtresse était plus en détresse parce que le handicap était plus lourd. C'était un enfant mutique et qui n'accédait pas du tout aux apprentissages. » Très frappant dans ce passage, mais ce n'est pas la seule fois, que la détresse évoquée soit celle de l'enseignante. Et que les AVS définissent souvent leur rôle comme le fait d'être là pour aider, mais cette aide, elle est à deux faces. Pour aider l'élève, mais pas seulement. Pour négocier, disons, entre le souci de permettre à l'élève de participer à la vie de la classe et le souci de rétablir les conditions d'un déroulement ordinaire de celle-ci. Voilà, affaire à une fonction de remédiation qui peut aller, dans la manière dont les personnes vivent leur rôle, extrêmement loin. Par exemple, se soucier de la situation des parents. L'une de nos interlocutrices s'est inquiétée beaucoup, était très inquiète, parce que, étant en formation certains jours de la semaine, l'élève dont elle s'occupait risquait d'être déscolarisé. Parce que les enseignants ne voulaient pas plus prendre en charge l'élève à partir du moment où elle n'était pas là. Et que nous dit-elle, nous dit, c'est tout de même pas aux parents d'endosser le problème de retour. Les parents, ils travaillent, donc ce n'est pas à eux d'endosser le problème du retour de l'élève dans sa famille. Vous voyez que la facilitation dont il s'agit se loge non seulement dans l'écart abstraitement séparant l'enfant des apprentissages, mais dans tout un tissu de relations, d'activités que la présence de l'élève en classe va infléchir et va modifier. Donc on a un travail de tissage ou de tricotage dont les fils peuvent s'étendre très loin. Mais surtout, on a affaire à un travail dont, en tout cas c'est l'adjectif qui nous est venu, dont la définition première est peut-être d'être invisible. Peut-être d'être invisible, alors j'ai mentionné tout à l'heure ce point, cette façon dont la logique de la reconnaissance le rend d'une certaine façon invisible structurellement, mais invisible en plusieurs sens. D'abord, invisible parce que sans visibilité. Ce qui est proprement extraordinaire est en même temps très intéressant. C'est pas, d'une certaine façon, c'est scandaleux, d'une autre manière, c'est assez intéressant. C'est que les acteurs naviguent absolument sans visibilité et se découvrent dans une impréparation qui ne permet d'étayer la construction de leurs relations sur aucun savoir préalable. D'une part, parce que l'intervention de l'AVS dépend de procédures de négociation complexes, il y a les démarches des familles, les capacités de réponse de l'administration, les effets d'opportunité. Parfois, le directeur d'école connaît une ancienne mère d'élève qui pourrait bien faire l'affaire, etc. Ce qui veut dire que l'affectation de l'auxiliaire auprès d'un élève intervient parfois plusieurs semaines après que l'enfant a effectué sa rentrée et le professeur des écoles découvre qu'il y a un autre adulte dans la classe. Non-visibilité, d'abord, et en tout cas, de ce point de vue-là. D'autre part, et c'est encore plus étonnant, l'individualisation du soutien ne s'accompagne pas d'une typologie fine des situations de handicap auxquelles il va s'agir de faire face, ou d'une grille de lecture, ou d'une forme de réponse à ce qui associerait à tel handicap, il faut répondre de telle manière, etc. Ce qui caractérise la chose de ce point de vue-là, du point de vue du savoir, si vous voulez, c'est une espèce d'effacement. À la fois à cause des conditions d'emploi des personnes, à cause aussi, et peut-être d'abord, de ce déboîtement entre la question du handicap et la question du médical, tout cela se rencontre jusqu'à faire du handicap une réalité générique, dont les AVS doivent reconnaître les particularités chemin faisant. Très concrètement, les AVS découvrent les caractéristiques de l'élève qui peuvent aller de la cécité à la dyspraxie ou à l'autisme, seulement lors de l'arrivée dans l'établissement et sans du tout pouvoir compter, et d'une certaine manière sans vouloir compter, sur l'appui que pourrait fournir un diagnostic médical. Il arrive que les élèves ne soient, comme c'est souvent le cas en maternelle, pas testés. Pour des élèves qui ont des troubles autistiques, est-ce que c'est diagnostiqué ? Pas encore. Et puis surtout, même si les familles donnent accès aux éléments d'information qui peuvent orienter la prise en charge, le rapport n'est pas vécu comme une intervention technique où un diagnostic pourrait déboucher sur un traitement. Tout ça est hors champ. Tout ça est d'une certaine manière hors sujet. Comme le disait l'une de nos interlocutrices, ce qu'on nous apprend en information, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître le handicap d'un enfant pour aider un enfant. Il suffit juste d'observer ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, et nous, on agit en fonction de ça. Et assez indécidable de savoir si cette situation existe parce que tout cela se bricole, ou, et je crois que c'est les deux en même temps, si cette situation existe parce que la situation du handicap n'est plus indexable sur un savoir médical du handicap. Je pense que cette chose-là a bougé, de sorte que le savoir, lorsqu'il intervient, il intervient souvent après coup. Cette formation, elle est chouette, mais pareil, ça fait 3 ans que je fais ce métier, et tout ce qu'on me dit maintenant, je l'ai appris sur les 3 ans. Donc on a affaire à un savoir qui se bricole, qui parfois se bricole pour soi et pour les autres. L'une de nos interlocutrices avait, après 2 ans, fait un classeur sur l'autisme, classeur qu'elle laissait à disposition des enseignants de l'équipe pédagogique pour qu'ils puissent en savoir un petit peu plus sur l'autisme. On parle là d'une personne qui était sans qualification, mais qui était allée chercher sur Internet ce qu'il en était des troubles autistiques. Invisibilité donc au sens d'une absence de visibilité. On ne sait pas où on va et on découvre où on va en marchant. Mais en même temps, invisibilité parce que obligation à ne pas empiéter, obligation de ne pas empiéter sur le rôle et sur l'autorité des acteurs investis dans cette relation. Ne pas être une deuxième maîtresse dans la classe, énoncé revient perpétuellement. Quand bien même, on intervient également lorsque la situation laisse le loisir auprès des autres élèves en difficulté. Je cite, l'instit ne veut pas qu'on lui vole sa place, il ne veut pas être dépossédé de sa classe. C'est pour ça qu'une qualité à avoir, c'est d'être très souple, de savoir s'adapter, presque autant à l'enseignant qu'à l'élève. Mais cette même interlocutrice disait que, au bout d'un moment, son accompagné se débrouillait plutôt bien, donc elle intervenait auprès des autres, pour les aider aussi à leur tour. Une aide qui peut aller au-delà de l'élève dont on a la charge, à condition qu'elle ne se dise pas comme telle. De la même manière, préoccupation souvent importante, ne pas se laisser se développer un attachement trop durable. Ne pas se laisser se développer un attachement comparable à celui d'une relation familiale, parce qu'il faut anticiper sur le moment où l'élève changera de classe et ne pourra plus être suivi par les mêmes personnes. On a donc un espace qui consiste à aplanir les difficultés d'accès à l'apprentissage, de rendre possible l'usage du droit à l'école, mais qui est absolument défini comme une négociation entre le devoir d'incursion, il faut intervenir, et la recherche des limites. Recherche des limites de l'ordre pédagogique, il y a une spécialisation didactique, recherche des limites vis-à-vis de la légitimité parentale, ce sont les parents qui disent le bien de l'enfant. Je suis un peu long, donc je vais conclure. Il ne s'agit pas de conclure, il s'agit d'ouvrir d'une certaine manière notre affaire. J'ai encore oublié de passer mes diapos. Voici la dernière. Que penser du contexte dans lequel cette activité se déploie? Que penser de la manière dont aujourd'hui, concrètement, effectivement, entre bricolage de circonstances et exigences fondamentales, l'intégration des élèves en situation de handicap s'opère à l'école? Je pense qu'on peut énoncer deux séries de diagnostics rigoureusement contradictoires. Et qu'on met que la réflexion, l'installation de la réflexion doit sans doute s'installer dans cette contradiction-là. On peut dire d'un côté que le travail invisible des auxiliaires de vie scolaire est au fond l'écho plus général de toute une série de métiers qui tendent à apparaître dans notre état des droits. Parce que nous sommes dans des systèmes, dans des institutions qui mobilisent des professions statutaires, les enseignants, l'éducation nationale est faite d'enseignants, que ces métiers, que ces institutions s'ouvrent à de nouveaux destinataires de l'action publique, et qu'au fond, plutôt que de bouleverser le cadre existant, plutôt que de questionner les hiérarchies d'emploi ou les cultures professionnelles, eh bien, on double ces professions d'un halo de métiers subalternes, de fonctions périphériques qui vont combler, faciliter, pallier, assouplir le service, etc. C'est un peu la même chose, c'est assez comparable à la fonction des aides-soignants, ou des aides-soignantes, ou des auxiliaires de vie dans les métiers paramédicaux, par exemple. Au fond, ces tâches, elles correspondent moins, elles se définissent moins par de nouveaux besoins, par des innovations, que par une espèce de délégation, qui est aussi une manière de continuer, du coup, à tenir le handicap à distance. Parce qu'on en délègue, la perturbation qu'il pourrait introduire dans la définition même de ce que c'est qu'une classe à une personne qui va le prendre en charge. C'est ça, et en même temps, c'est autre chose. En même temps, c'est autre chose parce que cette invisibilité dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi l'espace d'assignation floue, au creux desquels émergent des compétences, des savoir-faire, de moindre technicité, mais extrêmement important pour les élèves et les familles qui en bénéficient. C'est sans doute par l'action invisible des auxiliaires de vie scolaire qu'on sort effectivement à l'école d'une appréhension défectologique, une définition strictement défectologique du handicap. Pour le dire autrement, la loi de 2005, vous aurez remarqué qu'elle parle d'élèves en situation de handicap et non d'élèves handicapés. Cette nuance est extrêmement importante parce qu'elle revient à définir le handicap non pas comme une propriété de la personne, mais comme une relation, comme une caractéristique de la situation qui confronte la personne à l'institution. De cette manière, bon. Or, qu'est-ce qui définit la compétence, et souvent la grande compétence, des auxiliaires de vie scolaire aujourd'hui, sinon l'obligation d'avoir le sens de la situation. C'est-à-dire que, précisément parce qu'elles n'ont souvent rien d'autre qu'une appréhension de la situation pour fabriquer les gestes, pour produire les gestes nécessaires à ce que cette situation se passe bien. Il y a une étrange écho, c'est bel écho, entre la définition du handicap comme situation et la mise en place de ces acteurs en situation, y compris dans tout ce que la situation... dans tout ce par quoi la situation déborde de l'institution, à commencer par le corps. Le corps, c'est quand même ce par quoi la situation déborde en permanence les institutions. Là, on serait presque du côté, alors si on voulait filer, du côté de toute la réflexion sur le care, etc. Bon. La limite de cette interprétation généreuse-là, c'est, on pourrait poser la question de cette manière-là, est-il possible de confier à des praticiens, à des acteurs, le soin de rendre effectivement la reconnaissance, si ces acteurs sont absolument non reconnus à l'intérieur de l'institution. Qu'en est-il, enfin, de ce point de vue-là, l'appel au relationnel, à l'empathie, à l'adaptabilité, au bon sens, à la compassion, etc. S'il ne s'accompagne pas d'une reconnaissance institutionnelle, il y a là un paradoxe qu'il convient sans doute de dénouer. Et ce paradoxe, il a d'abord un effet, et j'en reviens à mon affaire de départ, c'est qu'il complique énormément, et ça c'est venu à chaque fois dans la discussion, la transmission de l'expérience. Parce que ces auxiliaires dont la situation est précaire, dont l'apparition et la disparition sont d'une certaine manière évanouissantes, comment peuvent-ils effectivement, ou peuvent-elles effectivement transmettre ce qu'elles sont, les savoirs, les pratiques qu'elles ont forgées ou qu'elles ont fabriquées. Il me semble que c'est cette question-là qui est un préalable, que c'est en tout cas dans ce contexte-là et vis-à-vis de ces questions-là qu'on doit se situer pour, et peut-être avant d'eux, définir quelque chose comme un référentiel métier. Voilà. C'est pas une conclusion, c'est une ouverture, mais c'est sans doute à partir de là qu'on peut discuter. Je vous remercie.